des nouvelles de Maupassant.
Lecture-spectacle conçue par Marie-Louise Bischoff-Berger.
Enregistré en public le 11 février 2019 à la Scala Paris.
Réalisation, Cédric Ossir.
Pourquoi suis-je entré ce soir-là dans cette brasserie? Je n'en sais rien. D'un coup d'œil, je cherchais une place où je ne serais point trop serré, et j'allais m'asseoir à côté d'un homme qui me parut vieux, et qui fumait une pipe de 2 sous, en terre, noire comme du charbon. 6 ou 8 sous coupes de verre empilées sur la table devant lui indiquaient le nombre de bocs qu'il avait absorbés déjà. D'un coup d'œil, j'avais reconnu un boqueur, un de ces habitués de brasserie qui arrivent le matin quand on ouvre et s'en vont le soir quand on ferme. Il était sale, chauve du milieu du crâne, tandis que de longs cheveux gras, poivre et sel tombaient sur le col de sa redingote. Les manchettes effiloquées étaient complètement noires du bord, comme les ongles. Dès que je fus assis à son côté, ce personnage me dit d'une voix tranquille.
« Tu vas bien? Tu ne me reconnais pas ?»«
Non. »«
Des Barrettes. » »«
Jean Des Barrettes, mon ancien camarade de collège. » Je lui serrai la main, tellement interdit que je ne trouvais rien à dire. Puis enfin... « Et toi, tu vas bien ?»«
Moi, comme je peux. »
Et qu'est-ce que tu fais?
Bah, tu vois.
Mais tous les jours.
Tous les jours, c'est la même chose. Garçon, 2 bocs.
2 bocs à la table 1.
Et quoi de neuf?
Je suis écrivain. Mais en ce moment, la page est vide.
Moi, je ne fais rien, comme tu vois. Jamais rien. Quand on n'a pas le sou, je comprends qu'on travaille. Mais quand on a de quoi vivre, c'est inutile. À quoi bon travailler? Le fais-tu pour toi ou pour les autres? Si tu le fais pour toi, c'est que ça t'amuse, alors très bien. Si tu le fais pour les autres, c'est que t'es un niais. Garçon, 1 boc! Ça me donne soif de parler. Je n'en ai pas l'habitude. Oui, moi je ne fais rien. Je me laisse aller. Je vieillis. En mourant, je ne regretterai rien. Je n'aurai pas d'autres souvenirs que cette brasserie et les gens qui y viennent. Je vis à travers leurs histoires. Je cause quelquefois avec les habitués, avec le garçon. Ah, voici la petite baronne de Grangerie. Elle est pressée. Elle court plutôt qu'elle marche. Son ami est déjà attablé. C'est la petite marquise de Renaudon, en train de prendre son thé.
Il faut que je te parle. Il m'arrive une chose horrible. Allons, raconte.
Garçon, de l'eau plate.
Oh ma chère, c'est abominable. Abominable ce qui m'arrive. Je n'ai pas dormi de la nuit, mais pas une minute, tu entends? Pas une minute. Tiens, tâte mon cœur comme il bat. Ça m'est arrivé hier dans la journée, vers 4h ou 4h30. Je sais plus au juste. Tu connais bien mon appartement. Tu sais que mon petit salon, celui où je me tiens toujours, donne sur la rue Saint-Lazare, au premier, et que j'ai la manie de me mettre à la fenêtre pour regarder passer les gens. C'est si gai, ce quartier de la gare, si remuant, si vivant. Enfin, j'aime ça. Donc hier, j'étais assise sur la chaise basse que je me suis fait installer dans l'embrasure de ma fenêtre. Elle était ouverte, cette fenêtre, et je ne pensais à rien. Je respirais l'air bleu. Tu te rappelles comme il faisait beau hier?
Oui.
Tout à coup, je remarque que de l'autre côté de la rue, il y a aussi une femme à la fenêtre. Une femme en rouge. Moi, j'étais en mauve. Tu sais, ma jolie toilette mauve. Je ne la connaissais pas, cette femme. Une nouvelle locataire installée depuis 1 mois. Et comme il pleut depuis 1 mois, je ne l'avais point vue encore. Mais je m'aperçus tout de suite que c'était une... une vilaine fille. D'abord, je fus très dégoûtée et très choquée qu'elle fût à la fenêtre comme moi. Et puis, peu à peu, ça m'amusa de l'examiner. Elle était accoudée et elle guettait les hommes. Et les hommes aussi la regardaient, tous, ou presque tous. On aurait dit qu'ils étaient prévenus par quelque chose en approchant de la maison, qu'ils la flairaient comme les chiens flairent le gibier, car ils levaient soudain la tête et échangeaient bien vite un regard avec elle, un regard de franc-maçon. Le sien disait « Voulez-vous ?» Le leur répondait « Pas le temps, ou bien une autre fois, ou bien pas le sou, ou bien veux-tu te cacher, misérable ?» C'était les yeux des pères de famille qui disaient cette dernière phrase. Tu ne te figures pas comme c'était drôle de la voir faire son manège, ou plutôt son métier. Quelquefois, elle fermait brusquement la fenêtre, et je voyais un monsieur tourner sous la porte. Elle l'avait pris, celui-là, comme un pêcheur à la ligne prend un goujon. Alors je commençais à regarder ma montre. Il restait de 12 à 20 minutes, jamais plus. Vraiment, elle me passionnait à la fin, cette araignée. Et puis elle n'était pas laide, cette fille. Je me demandais, comment fait-elle pour se faire comprendre si bien, si vite, complètement? Ajoute-t-elle à son regard un signe de tête ou un mouvement de main? Et je pris ma lunette de théâtre pour me rendre compte de son procédé. Oh, il était bien simple. Un coup d'œil d'abord, puis un sourire, puis un tout petit geste de la tête qui voulait dire « Montez-vous ?» Mais si léger, si vague, si discret qu'il fallait vraiment beaucoup de chic pour le réussir comme elle. Et je me demandais, est-ce que je pourrais le faire aussi bien? Ce petit coup de bas en haut, hardi et gentil, car il était très gentil son geste. Et j'allais essayer devant la glace. Ma chère, je le faisais mieux qu'elle, mais beaucoup mieux. J'étais enchantée. Je revins me mettre à la fenêtre. Je me disais, si je leur faisais le signe, est-ce qu'ils me comprendraient, moi qui suis une honnête femme? Et voilà que je suis prise d'une envie folle de leur faire ce signe, mais d'une envie de femme grosse, d'une envie épouvantable, tu sais, de ces envies auxquelles on ne peut pas résister. Enfin, moi, quand je suis trop tentée de faire une chose, je la fais toujours. Je me dis donc, voyons, je vais essayer sur un seul, pour voir. Mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien. Nous échangerons un sourire, et voilà tout. Et je ne le reverrai jamais. Et si je le vois, il ne me reconnaîtra pas. Et s'il me reconnaît, je nierai parbleu. Je commence donc à choisir. J'en voulais un qui fût bien, très bien. Tout à coup, je vois venir un grand blond, joli garçon. J'aime les blonds, tu sais. Je le regarde, il me regarde. Je souris, il sourit. Je fais le geste. Mais à peine, il répond oui de la tête. Et le voilà qui entre. Ma chérie, il entre par la grande porte de la maison. Mais tu ne te figures pas ce qui s'est passé en moi à ce moment-là. J'ai cru que j'allais devenir folle. Oh, quelle peur, songe, il allait parler au domestique, à Joseph, qui est tout dévoué à mon mari. Joseph aurait cru certainement que je connaissais ce monsieur depuis longtemps. Et que faire, dis? Que faire? Il allait sonner tout à l'heure, dans une seconde. Que faire, dis?
Le mieux était de courir à sa rencontre, de lui dire qu'il se trompait, de le supplier de s'en aller. Il aurait pitié d'une femme, d'une pauvre femme.
C'est ce que j'ai fait. Je me précipite donc à la porte et je l'ouvre juste au moment où il posait la main sur le timbre. Je balbutiais, mais tout à fait folle. Allez-vous-en, monsieur. Allez-vous-en, vous trompez. Je suis une honnête femme, une femme mariée. C'est une erreur, une affreuse erreur. Je vous ai pris pour un de mes amis, à qui vous ressemblez beaucoup. Ayez pitié de moi, monsieur. Et voilà qu'il se met à rire, ma chère. Et il répond « Bonjour, ma chatte. Tu sais, je la connais, ton histoire. Tu es mariée, c'est deux louis au lieu d'un. Tu les auras. Allons, montre-moi la route. » Et il pousse. Il referme la porte. Et comme je demeurais épouvantée, en face de lui, il m'embrasse, me prend par la taille, me fait rentrer dans le salon qui était resté ouvert. Et puis il se met à regarder tout comme un commissaire priseur. Et il reprend. Bigre, c'est gentil chez toi. C'est très chic. Faut que tu sois rudement dans la dèche en ce moment-ci pour faire la fenêtre. Alors moi, je commence à le supplier. Oh monsieur, allez-vous-en. Allez-vous-en. Mon mari va rentrer. Il va rentrer dans un instant. C'est son heure. Je vous jure que vous vous trompez. Et il me répond tranquillement. Allons ma belle. Assez de manières comme ça. Si ton mari rentre, je lui donnerai 100 sous pour aller prendre quelque chose en face. Et comme il aperçoit sur la cheminée la photographie de Raoul, il demande « C'est ça ton mari ?»« Oui, c'est lui. Il a l'air d'un joli mufle. »« Et ça, qu'est-ce que c'est ? Une de tes amies ?»« C'était ta photographie, ma chère. » »«
Une photo de moi ? Vraiment ?»«
Oui, tu sais, celle en toilette de bal. » Je savais plus ce que je disais, je balbutiais. « Oui, c'est une de mes amies. » Elle est très gentille. Tu me la feras connaître. Et voilà la pendule qui se met à sonner 5 heures. Et Raoul rentre tous les jours à 5h30. S'il revenait, avant que l'autre fût parti, songe donc. Alors j'ai perdu la tête. Tout à fait. J'ai pensé que le mieux était de me débarrasser de cet homme le plus vite possible. Plus tôt ce serait fini, tu comprends? Et voilà. Voilà, puisqu'il le fallait, et il le fallait, ma chère, il ne serait pas parti sans ça, donc j'ai mis le verrou de la porte du salon, voilà.
Et il était joli garçon.
Mais oui.
Et tu te plains?
Ben, vois-tu, ma chère, c'est que il a dit qu'il reviendrait demain. À la même heure. Et j'ai une peur atroce. Tu n'as pas idée comme il est tenace et volontaire. Que faire, dis ? Que faire ?
Fais-le arrêter.
Comment ? Tu dis, à quoi penses-tu, le faire arrêter ? Sous quel prétexte ?
Oh, ben c'est bien simple. Tu vas aller chez le commissaire, tu lui diras qu'un monsieur te suit depuis 3 mois, qu'il a eu l'insolence de monter chez toi hier, qu'il t'a menacé d'une nouvelle visite pour demain et que tu demandes protection à la loi. On te donnera 2 agents qui l'arrêteront.
Mais ma chère, s'il raconte...
Mais on ne le croira pas, saute. Du moment que tu auras bien arrangé ton histoire au commissaire. Et on te croira, toi, qui es une femme du monde... Irréprochable.
Je n'oserai jamais.
Mais il faut oser, ma chère. Ou bien tu es perdue.
Songe qu'il va m'insulter quand on l'arrêtera.
Eh bien, tu auras des témoins et tu le feras condamner.
Condamner à quoi?
À des dommages. Dans ce cas, il faut être impitoyable.
À propos de dommages, il y a une chose qui me gêne beaucoup. Mais beaucoup. Il m'a laissé 2 louis sur la cheminée.
2 louis.
Oui.
Pas plus?
Non.
C'est peu. Ça m'aurait humiliée, moi, eh bien.
Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire de cet argent?
Ma chère, il faut faire un petit cadeau à ton mari. Ça n'est que justice.
Regarde, la petite baronne se précipite dehors.
Certainement, elle court acheter les cadeaux pour son mari.
Et au passage, elle bouscule le garçon de café avec son plateau. Un verre de vin s'est renversé et a éclaboussé l'homme assis au fond. Il ne réagit même pas. Il a l'air agité, sombre. Il parle tout seul.
Suis-je fou ? Ou seulement jaloux ? Je n'en sais rien, mais j'ai souffert horriblement. J'ai accompli un acte de folie furieuse, c'est vrai. Mais la jalousie haletante, mais l'amour exalté, trahi, condamné, mais la douleur abominable que j'endure. Tout cela ne suffit-il pas pour nous faire commettre des crimes et des folies sans être vraiment criminels par le cœur ou par le cerveau? Oh, j'ai souffert. Souffert. Souffert d'une façon continue, aiguë, épouvantable. J'ai aimé cette femme d'un élan frénétique. Mais cependant, est-ce vrai? L'ai-je aimée? Non. Non. Non, elle m'a possédé, âme et corps, envahi, lié. Les premiers temps de notre liaison furent étranges et délicieux. Entre ses bras toujours ouverts, je m'épuisais dans une rage d'inassouvissable désir. Ses yeux, comme s'ils m'eussent donné soif, me faisaient ouvrir la bouche. Ils étaient gris le midi, teintés de vert à la tombée du jour, et bleus sous le soleil levant. Je suis pas fou! Je jure qu'ils avaient ces trois couleurs. Aux heures d'amour, ils étaient bleus, comme meurtris, avec des pupilles énormes et nerveuses. Ses lèvres, remuées d'un tremblement, laissaient jaillir parfois la pointe rose et mouillée de sa langue, qui palpitait comme celle d'un reptile. Et ses paupières, lourdes, se soulevaient lentement, découvrant ce regard ardent et anéanti qui m'affolait. En l'étreignant dans mes bras, je regardais son œil et je frémissais, secoué tout autant par le besoin de tuer cette bête que par la nécessité de la posséder sans cesse. Quand elle marchait à travers ma chambre, le bruit de chacun de ses pas faisait une commotion dans mon cœur. Et quand elle commençait à se dévêtir, laissant tomber sa robe et sortant, infâme et radieuse, du linge qui s'écrasait autour d'elle, je sentais tout le long de mes membres, le long des bras, le long des jambes, dans ma poitrine essoufflée une défaillance infinie et lâche. Un jour, je m'aperçus qu'elle était lasse de moi. Je le vis dans son œil, au réveil, penché sur elle. J'attendais chaque matin ce premier regard. Je l'attendais plein de rage, de haine, de mépris pour cette brute endormie dont j'étais l'esclave. Mais quand le bleu pâle de sa prunelle, ce bleu liquide comme de l'eau, se découvrait, encore languissant, encore fatigué, encore malade des récentes caresses, c'était comme une flamme rapide qui me brûlait, exaspérant mes ardeurs. Et ce jour-là, quand s'ouvrit sa paupière, j'aperçus un regard indifférent et morne, qui ne désirait plus rien. Ah, je le vis, je le sus, je le sentis, je le compris tout de suite. C'était fini, fini, fini pour toujours. Et j'en eus la preuve à chaque heure, à chaque seconde. Quand je l'appelais des bras et des lèvres, elle se retournait ennuyée, murmurant « Mais laisse-moi donc !» ou bien « Tu es odieux !» ou bien « Ne serai-je jamais tranquille ?»
Laisse-moi donc, ne serai-je jamais tranquille. Tu es odieux, tu es odieux.
Alors, je fus jaloux, mais jaloux comme un chien, et rusé, défiant, dissimulé. Je savais bien qu'elle recommencerait bientôt, qu'un autre viendrait pour rallumer ses sens. Je fus jaloux avec frénésie. Mais je ne suis pas fou. Non, certes non. J'attendis. Oh, j'épiais. Elle ne m'aurait pas trompé, mais elle restait froide, endormie. Et elle disait parfois...
Les hommes me dégoûtent. Oh, laisse-moi toi. Les hommes me dégoûtent.
Et c'était vrai. Alors, je fus jaloux d'elle-même. Jaloux de son indifférence. Jaloux de la solitude de ses nuits. Jaloux de ses gestes, de sa pensée, que je sentais toujours infâme. Jaloux de tout ce que je devinais. Et quand elle avait parfois à son lever ce regard mou qui suivait jadis nos nuits ardentes, comme si quelque concupiscence avait hanté son âme et remué ses désirs, il me venait des suffocations de colère, des tremblements d'indignation, Des démangeaisons, de l'étrangler, de la battre sous mon genou et de lui faire avouer, en lui serrant la gorge, tous les secrets honteux de son corps. Suis-je fou ? Non ? Et voilà qu'un soir, je la sentis heureuse. Je sentis qu'une nouvelle passion vibrait en elle. J'en étais sûr, indubitablement sûr. Elle palpitait comme après mes étreintes. Son œil flambait, ses mains étaient chaudes. Toute sa personne vibrante dégageait cette vapeur d'amour, d'où mon affolement était venu. Je finis de ne rien comprendre. Mais mon attention l'enveloppait comme un filet. Je ne découvrais rien pourtant. J'attendis une semaine, un mois, une saison. Elle s'épanouissait dans l'éclosion d'une incompréhensible ardeur. Elle s'apaisait dans le bonheur d'une insatiable caresse. Et, tout à coup, je devinais. Je ne suis pas fou. Je le jure. Je ne suis pas fou. Comment dire cela ? Comment me faire comprendre ? Comment exprimer cette abominable et incompréhensible chose ? Voici de quelle manière je fus averti. Un soir, je vous l'ai dit, un soir comme elle rentrait d'une longue promenade à cheval, elle tomba les pommettes rouges, la poitrine battante, les jambes cassées, les yeux meurtris, sur une chaise basse en face de moi. Je l'avais vue comme cela. Elle aimait. Je ne pouvais m'y tromper. Alors, perdant la tête pour ne plus la contempler, je me tournai vers la fenêtre et j'aperçus un valet emmenant par la bride vers l'écurie son grand cheval qui se cabrait. Elle aussi suivait de l'œil l'animal ardent et bondissant. Puis quand il eut disparu, elle s'endormit tout à coup. Je songeais toute la nuit et il me sembla pénétrer des mystères que je n'avais jamais soupçonnés. Qui sondera jamais les perversions de la sensualité des femmes ? Qui comprendra leurs invraisemblables caprices et l'assouvissement étrange des plus étranges fantaisies ? Chaque matin, dès l'aurore, elle partait au galop par les plaines et les bois. Et chaque fois, elle rentrait alanguie, comme après des frénésies d'amour. J'avais compris !
Les hommes me dégoûtent.
J'avais compris. J'étais jaloux maintenant du cheval nerveux et galopant. Jaloux du vent qui caressait son visage quand elle allait d'une course folle. Jaloux des feuilles qui baisaient en passant ses oreilles. Des gouttes de soleil qui lui tombaient sur le front à travers les branches. Jaloux de la selle qui la portait et qu'elle étreignait de sa cuisse. C'était tout cela qui la faisait heureuse. Qui l'exaltait, l'assouvissait, l'épuisait, et me la rendait ensuite insensible, mais presque pâmée. Je résolus de me venger. Je fus doux et plein d'attention pour elle. Je lui tendais la main quand elle allait sauter à terre après ses courses effrénées. L'animal furieux ruait vers moi. Elle le flattait sur son cou recourbé, l'embrassait sur ses naseaux frémissants, sans essuyer ensuite ses lèvres. Et le parfum de son corps en sueur, quand après la tiédeur du lit, se mêlait sous ma narine à l'odeur âcre et fauve de la bête. Je sortis avant l'aurore, avec une corde dans la main et mes pistolets cachés sur ma poitrine, comme si j'allais me battre en duel. Je courus vers le chemin qu'elle aimait. Je tendis la corde entre deux arbres. Puis je me cachai dans les herbes. J'avais l'oreille contre le sol. J'entendis son galop lointain. Puis je l'aperçus. Là, là-bas, sous les feuilles, comme au bout d'une voûte, arrivant à fond de train. Ah, je ne m'étais pas trompé. C'était cela. Elle semblait transportée d'allégresse, le sang aux joues, de la folie dans le regard, et le mouvement précipité de la course faisait vibrer ses nerfs d'une jouissance solitaire et furieuse. L'animal heurta mon piège des deux jambes de devant et roula, les os cassés. Elle, je la reçus dans mes bras. Puis, quand je l'eus déposée à terre, Je m'approchais de lui, qui nous regardait. Alors pendant qu'il essayait de me mordre encore, je lui mis un pistolet dans l'oreille et je le tuai, comme un homme. Mais je tombais moi-même, la figure coupée par deux coups de cravache, et comme elle se ruait de nouveau vers moi, je lui tirai mon autre balle dans le ventre. Dites-moi, suis-je fou ?
Mon ami, comment répondre à cette question ? Laissez-moi vous raconter les souvenirs les plus vifs de mon existence. Je suis plus âgé que vous, sans parents, sans enfants. Je me trouve donc libre de me confesser à vous. Promettez-moi seulement de ne jamais dévoiler mon nom. J'ai été beaucoup aimé, vous savez. J'ai souvent aimé moi-même. Je vous dirai aujourd'hui la première de mes aventures dont je fus bien innocente, mais qui détermina les autres. J'étais mariée depuis un an avec un homme riche, le comte Hervé de Ker, un breton de vieille race, que je n'aimais point, bien entendu. L'amour, le vrai, a besoin, je le crois du moins, de liberté et d'obstacles en même temps. L'amour imposé, sanctionné par la loi, béni par le prêtre, est-ce de l'amour ? Un baiser légal ne vaut jamais un baiser volé. Mon mari était haut, de taille, élégant et vraiment grand seigneur d'allure. Mais il manquait d'intelligence. Il parlait net, émettait des opinions qui coupaient comme des lames. On sentait son esprit plein de pensées toutes faites, mises en lui par ses pères et mères qui les tenaient eux-mêmes de leurs ancêtres. Il n'hésitait jamais, donnait surtout un avis immédiat et borné sans embarras aucun, et sans comprendre qu'il pût exister d'autres manières de voir. On sentait que cette tête-là était close, qu'il n'y circulait point d'idées, de ces idées qui renouvellent et assainissent un esprit comme le vent qui passe en une maison dont on ouvre portes et fenêtres. Le château que nous habitions se trouvait en plein pays désert. C'était un grand bâtiment triste, encadré d'arbres énormes et dont les mousses faisaient songer aux barbes blanches des vieillards. Le parc, une vraie forêt, était entouré d'un fossé profond qu'on appelle « Seau de loup ». Et tout au bout, du côté de la lande, nous avions deux grands étangs pleins de roseaux et d'herbes flottantes. Entre les deux, au bord d'un ruisseau qui les unissait, mon mari avait fait construire une petite hutte pour tirer sur les canards sauvages. Nous avions, outre nos domestiques ordinaires, un garde, sorte de brute, dévouée à mon mari jusqu'à la mort, et une fille de chambre, presque une amie, attachée à moi éperdument. Je l'avais ramenée d'Espagne 5 ans auparavant. C'était une enfant abandonnée. On l'aurait prise pour une bohémienne, avec son teint noir, ses yeux sombres, ses cheveux profonds comme un bois et toujours hérissés autour du front. Elle avait alors 16 ans, mais elle en paraissait 20. L'automne commençait. On chassait beaucoup, tantôt chez les voisins, tantôt chez nous. Et je remarquais un jeune homme, le baron de C, dont les visites au château devenaient singulièrement fréquentes. Puis il cessa de venir. Je n'y pensais plus, mais je m'aperçus que mon mari changeait d'allure à mon égard. Il semblait taciturne, préoccupé, ne m'embrassait point. Et malgré qu'il n'entrât guère en ma chambre, que j'avais exigé séparée de la sienne afin de vivre un peu seule, j'entendais souvent la nuit un pas furtif qui venait jusqu'à ma porte et s'éloignait après quelques minutes. Comme ma fenêtre était au rez-de-chaussée, je crus souvent entendre aussi rôder dans l'ombre autour du château. Je le dis à mon mari, qui me regarda fixement pendant quelques secondes, puis répondit « Ce n'est rien, c'est le garde. » Or, un soir, comme nous achevions de dîner, Hervé, qui paraissait fort gai par extraordinaire, d'une gaieté sournoise, me demanda « Cela vous plairait-il de passer 3 heures à l'affût pour tuer un renard qui vient chaque soir manger mes poules ?» Je fus surprise. J'hésitais, mais comme il me considérait avec une obstination singulière, je finis par répondre « Mais certainement, mon ami. » Il faut vous dire que je chassais comme un homme le loup et le sanglier. Il était donc tout naturel de me proposer cet affût. Mais mon mari, tout à coup, eut l'air étrangement nerveux. Et pendant toute la soirée, il s'agita, se levant et se rasseyant fiévreusement. Vers 10 heures, il me dit soudain « Êtes-vous prête ?» Je me levais, et comme il m'apportait lui-même mon fusil, je demandais « Faut-il charger à balle ou à chevrotine ?» Il demeura surpris, puis reprit « Oh, à chevrotine seulement, ça suffira, soyez-en sûr. » Puis, après quelques secondes, il ajouta d'un ton singulier « Vous pouvez vous vanter d'avoir un fameux sang-froid. » Je me mis à rire. Moi, pourquoi donc du sang-froid pour aller tuer un renard? Mais à quoi songez-vous, mon ami? Et nous voilà partis, sans bruit, à travers le parc. Toute la maison dormait. La pleine lune semblait teindre en jaune le vieux bâtiment sombre dont le toit d'ardoise luisait. Les deux tourelles qui le flanquaient portaient sur leur faîte deux plaques de lumière. Et aucun bruit ne troublait le silence de cette nuit claire et triste, douce et pesante, qui semblait morte. Pas un frisson d'air, pas un cri de crapaud, pas un gémissement de chouette. Un engourdissement lugubre s'était appesanti sur tout. Lorsque nous fûmes sous les arbres du parc, une fraîcheur me saisit, une odeur de feuilles tombées. Mon mari ne disait rien, mais il écoutait, il épiait, et semblait flairé dans l'ombre, possédé des pieds à la tête par la passion de la chasse. Quand nous atteignîmes la hutte, où nous devions nous embusquer, mon mari me fit passer la première, puis il arma lentement son fusil, et le claquement sec des batteries me produisit un effet étrange. Il me sentit frémir et demanda « Est-ce que par hasard cette épreuve vous suffirait? Alors partez !» Je répondis, fort surprise, « Pas du tout, je ne suis point venue pour m'en retourner. Êtes-vous drôle ce soir ?» Il murmura, « Comme vous voudrez. » Et nous demeurâmes immobiles. Au bout d'une demi-heure environ, comme rien ne troublait la lourde et claire tranquillité de cette nuit d'automne, je dis tout bas, « Êtes-vous bien sûr qu'il passe ici ?» Hervé eut une secousse, comme si je l'avais mordu, et la bouche dans mon oreille. « J'en suis sûr, entendez-vous ?» Et le silence recommença. Je crois que je commençais à m'assoupir quand mon mari me serra le bras et sa voix sifflante, changée, prononça « Le voyez-vous, là-bas, sous les arbres ?» J'avais beau regarder, je ne distinguais rien. Et lentement, Hervé épaula tout en me fixant dans les yeux. Je me tenais prête, moi-même, à tirer, et soudain, voilà qu'à 30 pas devant nous, un homme apparut, en pleine lumière, qui s'en venait à pas rapides, le corps penché, comme s'il eût fui. Je fus tellement stupéfaite que je jetai un cri violent. Mais avant que j'eusse pu me retourner, une flamme passa devant mes yeux, une détonation m'étourdit, et je vis l'homme rouler sur le sol comme un loup qui reçoit une balle. Ah ! Je poussai des clameurs aiguës, épouvantées, prises de folie. Alors, une main furieuse, celle d'Hervé, me saisit à la gorge. Je fus terrassé, puis enlevé dans ses bras robustes. Il courut, me tenant en l'air vers le corps étendu sur l'herbe. Il me jeta dessus, violemment, comme s'il eût voulu me briser la tête. Je me sentis perdu. Il allait me tuer. Et déjà, il levait sur mon front son talon. Quant à son tour, il fut enlacé, renversé, sans que j'eusse compris encore ce qui se passait. Je me dressai brusquement et je vis à genoux sur lui Paquita, ma bonne, qui cramponnait comme un chat furieux, crispée, éperdue, lui arrachait la barbe, les moustaches et la peau du visage. Puis, comme saisie brusquement d'une autre idée, elle se releva et se jetant sur le cadavre, elle l'enlaça à pleins bras. Le baisant sur les yeux, sur la bouche, ouvrant de ses lèvres les lèvres mortes et cherchant un souffle et la profonde caresse des amants. Mon mari, relevé, regardait. Il comprit. Et tombant à mes pieds, « Oh, pardon, ma chérie, je t'ai soupçonnée et j'ai tué l'amant de cette fille. C'est mon garde qui m'a trompée. Moi, je regardais les étranges baisers de ce mort et de cette vivante, et ses sanglots à elle, et ses sursauts d'amour désespérés. Et de ce moment, je compris que je serais infidèle à mon mari. »
Voilà de quoi remplir ta page vide. Les histoires sont à tout le monde. En mourant, je n'en regretterai rien. Je n'aurai pas d'autres souvenirs que cette brasserie, les gens, les histoires que j'y ai entendues. Pas de page vide. Garçon, de Bock.
Mais tu n'as pas toujours été ainsi.
Pardon, toujours, dès le collège.
Mais ce n'est pas une vie, mon bon, c'est horrible. Voyons, tu fais bien quelque chose, tu aimes quelque chose. Tu as des amis.
Non. Je me lève à midi, je viens ici, je déjeune, je bois des bocs. J'attends la nuit, je dîne, je bois des bocs. Puis vers 1h30 du matin, je retourne me coucher, parce qu'on ferme. C'est ce qui m'embête le plus. Depuis 10 ans, j'ai bien passé 6 années sur cette banquette, dans mon coin, mais le reste dans mon lit. Mais jamais ailleurs. Je cause quelquefois avec les habitués. Tiens, regarde. Le comte de Salure et sa femme Marguerite viennent de rentrer.
Garçon, un rhum, s'il vous plaît.
Deux ?
Oui, deux. Vous a-t-on assez fait la cour ce soir ?
Ah, mais je l'espère bien.
C'était presque ridicule pour moi.
Monsieur le comte, votre rhum ?
Si.
Madame.
Merci. Est-ce une scène ? Avez-vous l'intention de me faire des reproches ?
Non, ma chère amie. Je dis seulement que ce monsieur Burel a été presque inconvenant auprès de vous. Si. Si j'avais eu des droits, je me serais fâché.
Mon cher ami, soyez franc. Vous ne pensez plus aujourd'hui comme vous pensiez l'an dernier, voilà tout. Quand j'ai su que vous aviez une maîtresse que vous aimiez, vous ne vous occupiez guère si on me faisait ou si on ne me faisait pas la cour. Je vous ai dit mon chagrin. J'ai dit, comme vous ce soir, mais avec plus de raison, « Mon ami, vous compromettez Madame de Servi, vous me faites de la peine et vous me rendez ridicule. » Qu'avez-vous répondu ? Oh. Vous m'avez parfaitement laissé entendre que j'étais libre, que le mariage entre gens intelligents n'était qu'une association d'intérêts, un lien social, mais non un lien moral. C'est vrai ? Vous m'avez laissé comprendre que votre maîtresse était infiniment mieux que moi, plus séduisante, plus femme. Vous avez dit « plus femme ». Tout cela était entouré, bien entendu, de ménagements d'hommes bien élevés, enveloppés de compliments, énoncés avec une délicatesse à laquelle je rends hommage. Je n'en ai pas moins parfaitement compris. Il a été convenu que nous vivrions désormais ensemble, mais complètement séparés. Nous avions un enfant qui formait entre nous un trait d'union. Vous m'avez presque laissé deviner que vous ne teniez qu'aux apparences et que je pouvais, s'il me plaisait, prendre un amant pourvu que cette liaison restât secrète. Vous avez longuement disserté, et fort bien, sur la finesse des femmes, sur leur habileté pour ménager les convenances, etc., etc. J'ai compris, mon ami. J'ai parfaitement compris. Vous aimiez alors beaucoup, beaucoup, Madame de Servi. Et ma tendresse légitime, ma tendresse légale vous gênait. Je vous enlevais sans doute quelques-uns de vos moyens. Nous avons, dès lors, vécu séparés. Nous allons dans le monde ensemble, nous en revenons ensemble, et puis nous rentrons chacun chez nous. Or, depuis un mois ou deux, vous prenez des allures d'homme jaloux. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Non, je ne suis pas jaloux, ma chère amie, non. Mais j'ai peur de vous voir vous compromettre. Vous êtes jeune, vous êtes vive, vous êtes aventureuse.
Non, pardon, si nous parlons d'aventure, je demande à faire la balance entre nous. Non,
plaisantez pas, je vous prie. Je vous parle, moi, en ami, enfin, en ami sérieux. Quant à tout ce que vous venez de dire, c'est quand même fortement exagéré.
Non, pas du tout. Vous m'avez avoué, hein? Vous m'avez avoué votre liaison, ce qui équivalait à me donner l'autorisation de vous imiter. Je ne l'ai pas fait.
Attends, permettez.
Non, laissez-moi parler.
Oui.
Vous m'avez avoué votre liaison, j'étais donc libre de vous imiter. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas d'amant et je n'en ai pas eu. Jusqu'ici. J'attends. Je cherche. Mais je ne trouve pas. Il me faut quelqu'un de bien, de mieux que vous. C'est une sorte de compliment que je vous fais, vous n'avez pas l'air de le remarquer.
Non, là, vos plaisanteries sont absolument déplacées.
Mais je ne plaisante pas. Vous m'avez parlé du XVIIIe siècle, vous m'avez laissé entendre que vous étiez régence. Oui. Vous voyez, je n'ai rien oublié. Alors le jour où il me conviendra de cesser d'être ce que je suis, vous aurez beau faire, vous serez, sans même vous en douter, cocu, comme les autres.
Comment pouvez-vous prononcer des mots pareils?
Et des mots pareils? Mais vous avez ri comme un fou quand Madame de Gers a déclaré que Monsieur de Servi avait l'air d'un cocu à la recherche de ses cornes.
Alors, ce qui peut paraître drôle dans la bouche de Madame de Gers devient inconvenant dans la vôtre.
Pas du tout. Mais vous trouvez très plaisant le mot cocu quand il s'agit de Monsieur de Servi et vous le jugez fort malsonnant quand il s'agit de vous. Bon, tout dépend du point de vue. D'ailleurs, je ne tiens pas à ce mot, je ne l'ai prononcé que pour voir si vous êtes mûr.
Mûr, pourquoi?
Mais pour l'être.
Vous êtes ce soir tout à fait mal élevé. Je vous ai jamais vu comme ça.
Ah ben voilà, j'ai changé. J'ai changé en mal, mais c'est de votre faute.
Alors ma chère, parlons sérieusement, je vous prie. Je vous supplie de ne pas autoriser, comme vous l'avez fait ce soir, les poursuites inconvenantes de Monsieur Burel.
Vous êtes jaloux? Je le disais bien.
Non. Seulement, je désire n'être pas ridicule. Je ne veux pas être ridicule. Et si je revois ce monsieur vous parler dans les épaules ou plutôt entre les seins...
Seriez-vous amoureux de moi par hasard?
Oui, on le pourrait être de femme moins jolie.
Tiens, comme vous voilà. Parce que moi, je ne suis plus amoureuse de vous.
Vous fâchez. Moi, je vous trouve ravissante depuis quelques temps.
Alors, c'est que j'ai gagné. Vous aussi, vous me trouvez... mûre.
Non, je vous trouve ravissante, monsieur. Vous avez des bras, vous avez un teint, vous avez des épaules.
Qui plairait bien un peu à elle.
Là, vous êtes féroce, hein. Non, vraiment, je ne connais pas de femme aussi séduisante que vous.
Vous êtes à jeun.
Comment?
Vous êtes à jeun. Quand on est à jeun, on a faim. Et quand on a faim, on se décide à manger des choses qu'on n'aimait point à un autre moment. Donc je suis le plat. Négligé jadis, que vous ne serez pas fâché de vous mettre sous la dent ce soir.
Marguerite, qui est-ce qui vous a appris à parler comme ça?
Mais vous, depuis votre rupture avec Madame Servi, vous avez eu, enfin, à ma connaissance, 4 maîtresses. Alors, comment voulez-vous que j'explique autrement que par un jeûne momentané vos velléités de ce soir?
Bon, je vais être franc là. Je vais être brutal, je vais être sans politesse. Mm-hmm. Je suis redevenu amoureux de vous, mais pour de vrai, quoi. Très fort. Voilà.
Tiens. Alors, vous voudriez recommencer?
Oui, madame.
Et ce soir, hein?
Ce soir, Marguerite...
Voilà, vous voilà encore scandalisée. Non. Mon cher, non, entendons-nous. Nous ne sommes plus rien l'un à l'autre, n'est-ce pas? Je suis votre femme, c'est vrai, mais votre femme libre. J'allais prendre un engagement d'un autre côté, vous me demandez la préférence, eh bien je vous la donnerai à prix égal.
Je comprends pas là.
Suis-je aussi bien que vos cocottes? Soyez franc.
Non, vous êtes 1000 fois mieux.
Mieux que la mieux?
Oui, 1000 fois.
Bien. Et combien elle vous a coûté la mieux en 3 mois?
J'y suis plus là.
Je dis, combien vous a coûté en 3 mois la plus charmante de vos maîtresses en argent, bijoux, souper, dîner, théâtre, etc., etc., entretien complet, enfin.
Qu'est-ce que j'en sais, moi?
Mais vous devez le savoir. Voyons, un prix moyen... modéré, 3 000 pour le logement, le restaurant, 3 500, 5 000 francs par mois, est-ce que c'est à peu près juste?
Oui, à peu près, oui.
Eh bien, mon ami, donnez-moi tout de suite 5000 francs et je suis à vous pour un mois à compter de ce soir.
Mais vous êtes folle, hein?
Mais si vous le prenez ainsi, bonsoir.
Non, non, Marguerite, restez.
Ne m'approchez pas là où je me fâche.
Non, mais là, c'est stupide, vraiment.
Non,
c'est...
ça se peut, mais vous savez mes conditions, c'est 5000.
Non, ce serait complètement idiot.
Pourquoi c'est idiot?
Comment, pourquoi?
Ben oui, pourquoi?
Ben pourquoi? Un mari payé pour coucher avec sa femme, c'est...
C'est vrai que c'est bien plus bête quand on a une femme légitime d'aller payer des cocottes.
Soit, mais je veux pas être ridicule, hein. Quand même, vous avez une drôle d'idée, là, non?
Quelle idée?
Bah, de me demander 5000 francs, là.
Enfin, rien de plus naturel. Nous sommes étrangers l'un à l'autre, n'est-ce pas? Or, vous me désirez. Vous ne pouvez pas m'épouser puisque nous sommes mariés. Alors, eh bien, vous m'achetez un peu moins, peut-être, qu'une autre. Or, réfléchissez, cet argent, au lieu d'aller chez une gueuse qui en ferait je ne sais quoi, restera dans votre maison, dans votre ménage. Et puis pour un homme intelligent, est-il quelque chose de plus amusant, de plus original que de se payer sa propre femme? On aime bien en amour illégitime que ce qui coûte cher, très cher. Vous donnez à notre amour légitime un prix nouveau, une saveur de débauche, un ragoût de quoi? Polissonnerie, en le tarifant comme un amour coté, c'est pas vrai? Bon, écoutez, maintenant, monsieur, laissez-moi rentrer.
Non, allez, tiens, voilà 6000 francs, là. Mais tu sais, franchement,
quoi?
Ne t'y accoutume pas.
Hein? 5, mais c'est 5000 chaque mois, monsieur. Ou bien je vous renvoie à vos cocottes. Et même si vous êtes content, je vous demanderai de l'augmentation.
Je regardais de nouveau des barrets, bien en face. Sa figure ridée, mal soignée, semblait presque celle d'un vieillard. Sur le sommet du crâne, quelques longs cheveux voltigeaient au-dessus de la peau, d'une propreté douteuse. Voyons, sois franc, tu as eu quelques gros chagrins, un désespoir d'amour sans doute. Certes, tu es un homme que le malheur a frappé, et certainement tu as eu des chagrins.
Je t'assure que non. Je suis vieux parce que je ne prends jamais l'air. Il n'y a rien qui détériore les gens comme la vie de café.
Mais vraiment, tu m'intéresses. Depuis quand as-tu un pareil découragement? Ça n'est pas normal, ça n'est pas naturel. Il y a quelque chose là-dessous.
Oui, ça date de mon enfance. J'ai reçu un coup quand j'étais petit. Cela m'a tourné au noir pour jusqu'à la fin.
Quoi donc?
Tu veux le savoir? Écoute, tu te rappelles bien le château où je fus élevé, puisque tu es venu 5 ou 6 fois pendant les vacances? Tu te rappelles ce grand bâtiment gris au milieu d'un grand parc, et les longues avenues de chênes ouvertes vers les 4 points cardinaux? Tu te rappelles mon père et ma mère, tous les deux cérémonieux, solennels et sévères? J'adorais ma mère. Je redoutais mon père. Et je les respectais tous les deux, accoutumés d'ailleurs à voir tout le monde courbé devant eux. J'avais alors 13 ans. J'étais gai, content de tout, comme on l'est à cet âge-là, tout plein du bonheur de vivre. Or, vers la fin de septembre, quelques jours avant ma rentrée au collège, comme je jouais à faire le loup dans les massifs du parc, courant au milieu des branches et des feuilles, j'aperçus, en traversant une avenue, papa et maman qui se promenaient. Je me rappelle cela comme d'hier. C'était par un jour de grand vent. Toute la ligne des arbres se courbait sous les rafales. Gémissait, semblait pousser des cris, de ces cris sourds, profonds que les forêts jettent dans les tempêtes. Le soir venait. Il faisait sombre dans les forêts. Cette agitation du vent et des branches m'excitait, me faisait galoper comme un fou, à hurler pour imiter les loups. Dès que j'ai eu aperçu mes parents, j'allais vers eux, à pas furtif, sous les branches pour les surprendre, comme si j'eusse été un rôdeur véritable. Mais je m'arrêtais, saisi de peur, à quelques pas d'eux.
Mon père, en proie à une terrible colère, criait « Ta mère est sotte !» Et d'ailleurs, ce n'est pas de ta mère qu'il s'agit, mais de toi. Je te dis que j'ai besoin de cet argent, et j'entends que tu signes. Maman répondit d'une voix ferme. « Je ne signerai pas. C'est la fortune de Jean, cela. Je le garde pour lui, et je ne veux pas que tu la manges encore avec des filles et des servantes comme tu as fait de ton héritage. » Alors, papa, tremblant de fureur, se retourna et saisissant sa femme par le cou, il se mit à la frapper avec l'autre main de toute sa force, en pleine figure. Le chapeau de maman tomba, ses cheveux dénoués se répandirent. Elle essayait de parer les coups, mais elle n'y parvenait pas. Et papa, comme fou, frappait, frappait. Elle roulait par terre, cachant sa face dans ses deux bras. Alors il la renversa sur le dos pour la battre encore, écartant les mains dont elle se couvrait le visage. Quant à moi, mon cher, il me semblait que le monde allait finir, que les lois éternelles étaient changées. Ma tête d'enfant s'égarait, s'affolait, et je me mis à crier de toute ma force sans savoir pourquoi, en proie à une épouvante, à une douleur, à un effarement épouvantable. Mon père m'entendit, se retourna, m'aperçut, et se relevant s'en vint vers moi. J'ai cru qu'il allait me tuer et je m'enfuis comme un animal chassé, courant devant moi, dans le bois. J'allais peut-être une heure, peut-être deux, je ne sais pas. La nuit étant venue, je tombai sur l'herbe, je restai là éperdu, dévoré par la peur, rongé par un chagrin capable de briser à jamais un pauvre cœur d'enfant. Le jour vint, je n'osais pas me lever, ni marcher, ni revenir, ni me sauver encore, craignant de rencontrer mon père, que je ne voulais plus revoir. Je serais peut-être mort de misère et de famine au pied de mon arbre si le garde ne m'avait découvert et ramené de force. Je trouvai mes parents avec leur visage ordinaire. Ma mère me dit seulement « Comme tu m'as fait peur, vilain garçon, j'ai passé la nuit sans dormir. » Je ne répondis point, mais je me mis à pleurer. Mon père ne prononça pas une parole. 8 jours plus tard, je rentrai au collège. Eh bien, mon cher, c'était fini pour moi. J'avais vu l'autre face des choses, la mauvaise. Je n'ai plus aperçu la bonne depuis ce jour-là. Que s'est-il passé dans mon esprit? Quel phénomène étrange m'a retourné les idées? Je l'ignore. Mais je n'ai plus de goût pour rien. Envie de rien, d'amour pour personne, de désir quelconque, d'ambition ou d'espérance. Et j'aperçois toujours ma mère, ma pauvre mère, par terre, dans l'allée, tandis que mon père l'assommait. Maman est morte après quelques années. Mon père vit encore. Je ne l'ai pas revu. Garçon, un boc.
On lui apporta un boc qui l'engloutit d'une gorgée. Mais en reprenant sa pipe, comme il tremblait, il la cassa. Alors il eut un geste désespéré et il dit
« Tiens, c'est un vrai chagrin ça, par exemple. J'en ai pour un mois enculotté une nouvelle. »
Et il lança à travers la vaste salle, pleine maintenant de fumée et de buveurs, son éternel cri.
« Garçon, un boc et une pipe neuve. »
Et moi, je me suis levé et je suis parti. J'aime la nuit, avec passion. Je l'aime comme on aime son pays ou sa maîtresse, d'un amour instinctif, profond, invincible. Je l'aime avec tous mes sens, avec mes yeux qui la voient, avec mon odorat qui la respire, avec mes oreilles qui en écoutent le silence, avec toute ma chair que les ténèbres caressent. Je marchais longtemps, longtemps. Pour la première fois, je sentis qu'il allait arriver quelque chose d'étrange, de nouveau. Une force me poussait. Je m'aperçus que je n'avais jamais vu une nuit si sombre.
Des nouvelles de Maupassant.
Lecture spectacle conçue par Marie-Louise Bischoff-Berger.
Extrait des nouvelles.
Garçon à boc.
Le cygne.
Fou.
Confession d'une femme.
Au bord du lit.
En mer.
La nuit.
Enregistré en public le 11 février 2019 à la Scala Paris.
Avec
Dominique Gould.
Louis-Do de Lanxin.
Dominique Raymond.
Roch Lebovici.
Jérôme Kircher.
Marie-Sophie Ferdan.
Manon Combe.
Lou Delage.
Et Sylvain Levitte.
Musique originale, Antoine Bataille.
Conseillère littéraire, Caroline Oisana.
Prise de son et mixage, Andreas Jaffré, Mathieu Tourin.
Assistante à la réalisation, Claire Chéneau.
Réalisation, Cédric Ossire.